Cette semaine, Interception, le magazine de reportage de France Inter, cède sa place à une autre émission, Regard croisé. Il s'agit d'une coproduction des MFP, les médias francophones publics, les reporters des rédactions de Radio-Canada, de la RTS, la radio-télévision suisse, de la RTBF, la radio-télévision belge francophone, de RFI, Radio France Internationale, et de France Inter, ont travaillé sur une thématique commune. Cette année, il sera question de vélo. Un moyen de transport qui connaissait déjà un regain d'engouement pour des raisons écologiques, mais la pandémie a accéléré le mouvement. Les citadins ont par exemple boudé les transports en commun. De nombreuses métropoles ont parfois dû adapter leur voirie en catastrophe. L'industrie du cycle connaît une véritable pénurie mondiale, sensible jusque dans les magasins. Et la cohabitation entre cyclistes et non-cyclistes pose un problème, et pas seulement en ville. Bref, le vélo universel connaît une nouvelle et turbulente jeunesse.
Regard croisé, les médias francophones publics sur France Inter.
En France, c'est l'un des rares secteurs économiques à avoir profité de la crise sanitaire. Les vélos à assistance électrique enregistrent des ventes records. Il s'en est vendu 500 000 en 2020, une hausse de 30% par rapport à l'an dernier. À Paris, le phénomène est en plein essor, favorisé par l'aménagement rapide de nouvelles pistes cyclables, baptisées aussitôt Corona Piste, et par des aides publiques à l'achat d'un vélo. La crise du Covid a aussi accéléré le mouvement. Beaucoup de Franciliens se sont convertis au vélo pour éviter les transports en commun bondés. Et pour répondre à la demande, tout un écosystème se développe autour du vélo électrique, devenu pourvoyeur d'emplois et de services nouveaux. On monte en selle avec Sandy Dauphin et Georges Thaud de France Inter.
On est sur une piste cyclable qui part de la banlieue sud et qui va dans le centre de Paris oui. Jusqu'à Montparnasse. Il y a énormément de monde.
Oui. Alors, moi, je m'appelle Caroline. Je travaille dans un service commercial chez un assureur. Et je fais le trajet de la banlieue sud, jusqu'au sud de Paris, jusqu'à la banlieue nord. Donc, je traverse tout Paris. Ça fait à peu près 18 km.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à passer au vélo électrique ?
À cause du Covid. Donc, on a été confinés. Et suite au déconfinement, j'ai recommencé à aller travailler. J'ai à peu près 1h15 de transport avec plusieurs changements. Donc, j'en ai eu marre. Et puis aussi, ça permettait d'éviter d'être accolé aux gens. Parce qu'effectivement, quand on nous a autorisés à retourner au travail, il y avait quand même pas mal de monde dans les transports. Aux heures de pointe, en tout cas.
Qu'est-ce que ça change pour vous d'être à vélo électrique ?
C'est une énorme liberté. Ça me fait du sport. Ça me met de très bonne humeur. Je crois qu'un des plus grands plaisirs, c'est de redécouvrir Paris. Et là, on arrive à la Seine et c'est une vue absolument magnifique. Et voilà, on y va. Alors, attention. Voilà, ça, c'est un con. Il y a des voitures qui n'ont toujours pas compris qu'il faut qu'elles partagent la route. Mais bon, on va y arriver.
Les gens qui vont travailler à vélo, comme Caroline, on les surnomme les vélo-taffeurs. Ils sont de plus en plus nombreux dans Paris. Les ventes de vélos électriques s'envolent.
Bonjour.
Bonjour. Vous allez bien ?
Ça va.
Je suis Virgile Caillé. Je suis le délégué général de l'Union Sport et Cycle, qui est le syndicat professionnel du secteur. À la fois les industriels, à la fois la distribution, les assembleurs, les importateurs. Et on voit que c'est un secteur qui est en pleine ébullition actuellement.
Alors, on se trouve tout près de l'une des nouvelles pistes cyclables de Paris, qui longe la Seine, rive gauche, qui passe notamment devant la Tour Eiffel, les Invalides et encore le musée d'Orsay. Est-ce que ça, c'est l'une des conditions pour développer le vélo électrique dans Paris ?
Alors, c'est bien évidemment une des conditions primordiales. Ce vélo assistance électrique va complètement révolutionner le marché. Entre 2019 et 2020, on voit qu'il y a une augmentation des ventes, presque 30% d'augmentation, alors qu'on était déjà sur des taux d'augmentation extrêmement forts sur les années précédentes. En 2020, on en aura vendu plus de 500 000. Une courbe de progression qui devrait nous conduire vers près d'un million de vélos assistance électrique d'ici 2024. Vous le voyez, un marché effectivement en plein essor.
C'est quoi ? C'est beaucoup d'importations ou est-ce qu'il y a quand même quelques fabrications françaises ?
Alors, il y a bien entendu encore beaucoup d'importations, mais on voit que les industriels français considère qu'on devrait être à une augmentation de 40% de la production en France. Mais il y a des vraies réflexions qui se sont engagées durant la crise sur comment faire en sorte que l'Europe soit un petit peu moins dépendante du marché asiatique. On relocalise en Europe et on commence à réindustrialiser en France.
Et les magasins spécialisés poussent comme des champignons dans Paris. Yann Collin est le responsable du magasin de vélos électriques Ecox dans le quartier Montparnasse. Ces derniers mois, ses ventes ont doublé.
Là, je suis en train de changer une chambre à air d'une cliente qui a crevé ce matin.
Quand on ouvre une boutique de vente de vélos électriques à Paris, on est obligé d'assurer un service après-vente de réparation, de révision ?
Ah oui, c'est obligatoire. Nous sommes des boutiques de proximité. Donc nos clients, en fait, passent régulièrement la porte, ne serait-ce que pour un coup d'air dans les pneus. C'est du service, on a besoin d'être présent, ça les rassure.
Vous avez une cliente ?
C'est pour la révision.
J'avais ok, d'accord.
Voilà, ce matin.
Je vais regarder. Hop.
Alors, on voit qu'il y a beaucoup de révisions. Est-ce que il y a des métiers qui reviennent, comme réparateur de vélos ?
Alors oui, il y a vraiment un besoin de mécaniciens vélo. Plus il y a le vélo dans Paris, plus il y aura besoin de réparer, de la crevaison, de la révision, enfin, le changement de pièces classiques dans l'entretien de vélo. Donc il y a vraiment une vraie demande de mécaniciens. Les jeunes qui sont en recherche de filières, il faut vraiment pas hésiter. Aujourd'hui, c'est un secteur qui va recruter. Et aujourd'hui, Paris est en manque de mécaniciens. Il y a du travail. C'était un petit trou.
C'est un petit trou.
Ouais, rien. C'est fait en tout cas.
Et c'est déjà fait. Bravo.
Nous sommes au cœur de Paris, rue de Rivoli qui longe le musée du Louvre. Alors cette rue très commerçante est devenue une piste cyclable depuis quelques mois. Les voitures sont interdites, sauf quelques véhicules autorisés. C'est une petite révolution à Paris, une vélorution, disent les défenseurs de la bicyclette. Et avec l'apparition de ces pistes cyclables, on voit de plus en plus d'entrepreneurs et d'artisans à vélo. Ils ont désormais leur propre association professionnelle. Elle s'appelle les boîtes à vélo. J'ai rendez-vous avec l'un de ses responsables, Philippe Gentil. Qu'est-ce que c'est les boîtes à vélo ?
Alors les boîtes à vélo, c'est l'union des professionnels à vélo, donc les chefs d'entreprise qui ont choisi le vélo comme véhicule utilitaire au sein de leur entreprise. Alors bien sûr de la cyclo-logistique, hein, les livreurs à vélo qu'on voit de plus en plus en ville, mais des jardiniers paysagistes, des ébénistes, des déménageurs, voilà, il y a tous les métiers sont éligibles au vélo.
Quelle est leur particularité ?
La particularité quand on travaille à vélo, c'est qu'en effet on développe une clientèle locale. C'est-à-dire qu'on revient à un service de proximité parce qu'on peut aller là où les personnes, les artisans motorisés ne peuvent pas aller. Mais il y a une notion écologique, bien sûr, qui touche toutes les personnes qui utilisent le vélo au niveau professionnel. Mais il y a surtout une dimension économique parce qu'un vélo cargo, donc vélo utilitaire, peut transporter entre 100 et 150 kilos lui-même et on peut rajouter une remorque qui peut porter jusqu'à 300 kilos. Donc on est presque à une demi-tonne à vélo de manière très sécurisée pour aller partout en ville. Donc c'est extrêmement pertinent.
Muriel, bonjour, c'est le plombier.
Simon Leprince est l'un de ces artisans qui dépannent en vélo cargo électrique dans Paris. Il travaille pour une start-up cycloplombier.
Hop.
Donc ça, c'est la caisse à l'avant. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre...
Donc je mets mes outils, donc ce qui est par exemple la perceuse, ma caisse à outils. Donc le plus important quoi déjà. Et puis après, ouais, je rajoute.
Vous étiez plombier en camionnette avant à Paris ?
J'étais plombier en camionnette.
Ça change quoi ?
Bah que c'est beaucoup moins stressant. Moi, en camion, j'étais trop stressé, trop de bouchons, trop de trafic. Et là, je le ressens pas, quoi. Je me faufile. Et il n'y a pas d'essence à payer, il n'y a pas de stationnement à payer. Surtout qu'à Paris, les stationnements sont extrêmement chers. Donc, ce qui change la donne complètement. C'est sûr qu'on ne va pas faire des gros chantiers, on ne va pas refaire des salles de bain, des choses comme ça. Donc, ça reste quand même du dépannage. Changer un siphon ou changer un mitigeur, toilette bouchée, donc tout ça, ça se fait à vélo. Voilà. Donc, je vérifie si tout va bien là, ouais, c'est bon, je suis verrouillé, c'est parti.
En 2020, 11 000 vélos cargo se sont vendus en France, c'est deux fois plus que l'année d'avant.
À Bruxelles aussi, la pandémie a dopé la pratique du vélo. Au point que les tensions entre cyclistes et automobilistes sont palpables. Sur la route, mais aussi sur les réseaux sociaux. Accrochages, insultes, menaces, difficile d'en prendre la mesure exacte car il n'existe pas d'indicateur de tension entre les usagers. Il faut aussi prendre en compte les trottinettes et les piétons. Mais la politique de mobilité transforme la capitale belge. Et la crise sanitaire a poussé de nouveaux cyclistes sur les voies. Ils étaient 60% de plus en 2020 qu'en 2019. Pour les autos, la vitesse est désormais limitée à 30 km/h sur la majorité des artères bruxelloises. Là aussi, 40 km de coronapistes ont été créés en un temps record. Reportage à Bruxelles de Jérémy Van Beleghem et Aline Wavreille de la RTBF.
C'était début mai. La vidéo d'un cycliste qui se fait renverser volontairement par une voiture dans le centre de Bruxelles circule sur Twitter avec ce message.
Une fin tragique. Mon vélo va bien et moi, je n'ai que quelques égratignures.
Plus de 65 000 vues pour quelques minutes que Stéphane, 50 ans, n'oubliera pas.
C'était le 1er mai. J'allais pour m'engager sous l'arche alors qu'une voiture est arrivée à toute vitesse pour me couper la route. Donc c'est impossible de passer à deux. Donc j'ai pilé sur les freins. Et bon, comme tout être humain, est sorti un gros mot. Donc le monsieur, il s'arrête ici après le passage pour piéton. Donc quelques mètres après, je continue. Et en passant à côté de lui, je dis, mais enfin, j'étais quand même devant. Tout gentiment. Et là-dessus, il me répond, ta gueule. Et il démarre en faisant crisser ses pneus. Et là, il m'a foncé dessus, en fait.
C'est la chute, quelques douleurs musculaires et puis surtout l'impression de l'avoir échappé belle.
Ça grimpe, cette agressivité. Je fais entre 600 et 700 km par mois dans Bruxelles. On reçoit encore des menaces. Des fois, c'est même gratuit.
C'est sûr que ces derniers temps, on a de plus en plus de cas qui nous remontent.
Aurélie Willems, secrétaire générale du GRAC, l'association qui défend les cyclistes à Bruxelles.
Des personnes qui subissent des tensions sur la route, parfois des agressions. Heureusement, ça reste des cas assez rares. Et donc on constate ça aussi sur les réseaux sociaux, hein, donc y a pas mal de groupes qui s'animent.
Et parfois, ça va très loin. Dans certains messages, l'agressivité peut avoir des relents de haine. L'année dernière, la ministre bruxelloise de la mobilité, l'écologiste Elke van den Brandt, a été menacée de mort sur un groupe Facebook pro-voiture. Elle est pire qu'un virus.
Elle ne sait pas qu'une voiture pourrait l'éliminer.
On aura sa peau.
La ministre a d'ailleurs bénéficié un temps d'une surveillance policière. Ces tensions, c'est une réalité à Bruxelles. Mais à vrai dire, on ignore dans quelle mesure. Il n'y a pas d'indicateur. Et puis, il faut aussi les relativiser.
Je suis David Stevens, je suis inspecteur principal et je suis le chef de la brigade cycliste à Bruxelles Capitale XL. Je pense surtout que voilà, il y a certains conducteurs, donc à voiture par exemple, qui n'ont pas encore compris qu'ils doivent vraiment être courtois, qu'ils doivent respecter les règles. Je veux quand même aussi préciser que c'est une minorité de gens qui font des infractions. Donc c'est toujours la grande majorité qui respecte bien la cour de la route, qui est courtois.
Vous verbalisez autant les automobilistes que les cyclistes ?
Tout à fait. Donc chez nous, il n'y a pas de différence. Donc bien sûr, on va travailler aussi sur des infractions qui sont quand même assez dangereuses. Mais aussi des cyclistes qui sont verbalisés quand ils brûlent le feu rouge, quand ils se mettent eux-mêmes ou des autres en danger. Et surtout aussi dans le piétonné ou autour, où le cycliste a un peu repris le rôle de l'automobiliste. Et maintenant aussi, elle l'usager fort, on va dire. Et comme ça, on ne va pas tolérer que des cyclistes mettent en danger des piétons. Mais on va aussi pas tolérer que des automobilistes mettent en danger des cyclistes.
On va tous se resserrer pour laisser passer le bus.
L'histoire est donc plus compliquée qu'un simple bras de fer entre voiture et vélo. On bouge aussi en trottinette à Bruxelles, en scooter. Et le premier moyen de déplacement, c'est la marche. Reste que ces derniers mois, le nombre de cyclistes a explosé dans les rues. 60% d'augmentation en 2020 par rapport à 2019. Le coronavirus est passé par là.
J'ai acheté un vélo électrique pour mieux me déplacer et pas utiliser les transports publics tout le temps.
Plus de cyclistes et donc plus de tensions. L'équation tient la route. Abdel est chauffeur de taxi depuis 10 ans.
Je ne vais pas dire que je suis en tension avec eux, seulement on voit des cyclistes très imprudents. Ils ne portent pas toujours des vêtements clairs qui nous permettent de les voir. Donc oui, c'est ça, c'est que dans un angle mort, qu'on ne les voit pas et qu'on les fasse tomber. Leur comportement n'est pas toujours facile à prévoir.
Ce qui a changé la donne aussi il y a peu, ce sont ces nouvelles mesures décidées par le gouvernement bruxellois. Depuis janvier, la vitesse de croisière à Bruxelles, c'est désormais 30 km/h. Le grand plan de mobilité passe du papier au chantier, avec des changements de circulation pour apaiser les quartiers. Sans compter les 40 km de pistes cyclables, qui sont venues grignoter de l'espace aux voitures.
On a toujours dit non
au tout à la voiture. On est d'accord parce que c'est extrémiste. Eh bien, c'est une grave erreur ce qui se passe maintenant parce que c'est tout à la mobilité active. C'est un autre extrémisme.
Lorenzo Stefani de Touring, l'association de défense des automobilistes.
Les gens veulent venir en voiture, mais les axes sont réduits, les limitations ont changé, il faut se concentrer sur les panneaux. Tout d'un coup, il y a une piste cyclable qui est apparue du jour au lendemain avec des bandes rouges sur le sol et donc on doit s'arrêter. C'est des risques d'énervement, d'accident et on ne regarde plus devant soi. Et donc, toutes ces infrastructures et tout ce système de mise en place à la va-vite pendant ce Covid créent des situations et des conflits, des énervements qui, on le sait, toutes les études l'ont prouvé, plus on est énervé et plus on augmente les risques d'accident.
Et d'autres projets sont dans les cartons. La taxe kilométrique intelligente, plus on roule, plus on paye. La fin des voitures thermiques prévues pour dans un peu plus de 10 ans. Elke Van Den Brandt est la ministre bruxelloise de la mobilité et de la sécurité routière.
Je pense que l'urgence est là. Chaque matin, tout le monde est dans des embouteillages. Ça nous coûte au niveau de stress, on perd du temps. Mais c'est une question de santé publique. La qualité d'air à Bruxelles est pas bien. Et ça touche aux santé de nos enfants. Les enfants qui grandissent à côté d'une artère routière ont des poumons mal développés. Il y a plus des enfants avec l'asthme. Alors c'est vraiment une question d'urgence médicale aussi. Alors il faut agir. On peut pas juste tolérer qu'on a de plus en plus d'embouteillages à Bruxelles. C'est pour ça qu'il faut maintenant prendre action.
Bruxelles veut donc donner un coup d'accélérateur à sa transformation. C'est assumé. Il faut donc penser solution. Là-dessus, tout le monde est d'accord.
La solution, c'est oui, de repenser la ville pour que tous les usagers et leur place.
Une cohabitation. Ça doit être l'objectif de base.
Les voitures, elles ne vont pas disparaître, les piétons non plus, les bus non plus. Donc il faut au fait apprendre petit à petit à cohabiter avec tout ceci.
Ça passera sans doute par de nouvelles infrastructures séparées pour que chacun ait sa place en fonction de sa vitesse, mais aussi par une meilleure communication. Souvent, les tensions s'allument parce qu'on ignore les règles des uns et des autres.
Ça va ? Allez, ben on est parti, hein ?
Alors, l'ASBL ProVélo sillonne la ville avec les cyclistes pour leur rappeler leurs droits et leurs obligations. Ce soir-là, c'est Valentine Smeyers qui est la formatrice.
S'il y a une voiture qui arrive à ma gauche, ben, je peux essayer peut-être de tourner court, mais en tout cas, je dois ralentir pour qu'elle ne se sente pas non plus un peu dépourvue si elle voit qu'il y a un cycliste qui se met devant elle. Ça va, on ne peut pas se mettre devant elle.
Elle y aborde aussi ses tensions.
Moi, je dis toujours que je réponds généralement par un grand sourire. Ça, parfois, tend à apaiser un petit peu la personne. Parfois pas. Ben voilà, mais ce qui est important, c'est que si on connaît nos propres droits, on a aussi de l'argumentation. Et donc on peut expliquer, parce que comme on a des nouvelles législations, des nouveaux panneaux, parfois il y a des personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, et juste prendre le temps 2 minutes de leur expliquer en disant, ben voilà, moi j'ai fait cette manœuvre-là parce que j'avais le droit de le faire, ben ça peut parfois un petit peu apaiser la tension aussi.
Ces tensions entre piétons, cyclistes, automobilistes, ça fait aussi partie du processus d'une ville en transition. On l'a observé ailleurs, en Europe. C'est peut-être une mauvaise passe pour Bruxelles, le temps de se remettre en selle.
Partons maintenant pour Pékin, l'une des capitales mondiales où les cyclistes sont depuis longtemps les rois du macadam. Quand la technologie a permis de mettre en place des flottes de vélos partagés sans point d'attache, la pratique a aussi connu une explosion. Ce qui a entraîné des faillites retentissantes, la solidité des opérateurs étant plutôt aléatoire. D'où des images devenues virales de cimetières à vélos géants. Depuis, les autorités chinoises ont fait le ménage dans le secteur de ces vélos accessibles via une application. E-parking et crédit social pour contraindre les utilisateurs à ne pas reposer les bicyclettes n'importe où. Loi anti-monopole, il s'agit de réguler ce marché qui a transformé les mégalopoles chinoises en véritable jungle urbaine. À Pékin, le reportage RFI de Stéphane Lagarde et Wang Chengquang.
Regard croisé sur France Inter.
Des vélos qui vous disent hello, ni hao. Seules 3 compagnies sont désormais autorisées dans la capitale chinoise. 3 couleurs, bleu, jaune et vert. Dong et Zhou ont choisi les jaunes. Ces 2 jeunes femmes sont employées dans une agence de design du nord-est de Pékin. Dans le panier avant de la bicyclette, tote bag tête de chat pour l'une, 2 pamplemousses pour l'autre. Elles rentrent du travail.
C'est plus sympa quand on roule à plusieurs. Moi, je vais jusqu'à la station de métro. Tiens, celui-ci est cassé.
On en prend un autre, on ne peut pas utiliser celui-là. C'est rare aujourd'hui de voir des vélos en mauvais état. Il y a une piste cyclable qui va jusqu'à chez moi. C'est pratique, c'est écologique et c'est bon marché.
pratique et bon marché et en meilleur état qu'il y a quelques mois. Les vélos partagés sont le mode de transport préféré de ce quartier de la high-tech à Pékin et des jeunes gens en âge de pédaler. Allez, un coup de sonnette et on suit ses utilisateurs jusqu'au métro. Piste cyclable sous les échangeurs de béton, depuis quelques semaines, de grands rectangles blancs sont apparus sur les trottoirs. Nous sommes dans le quartier des universités où le concept de ces vélos sans attache a démarré. En cette fin d'après-midi, la foule jeune et masquée semble aspirée par les entrées du métro, mais avant cela, il faut garer sa bicyclette. Au carrefour, une mamie en gilet jaune donne des indications, elle parle vraiment comme ça. Sa voix est amplifiée par le mégaphone qu'elle porte en bandoulière.
Les vélos sont équipés de GPS. Il faut les reposer dans les zones marquées par une ligne blanche. Il faut aller de l'autre côté de la rue, à droite et à gauche du feu rouge. Vous avez des emplacements.
Alors, c'est un bon exemple. On ne s'est pas garé au bon endroit. Ça, c'est un parking pour les jaunes. Et nous, on doit aller dans un autre endroit. Attention à bien se mettre à l'intérieur des lignes blanches. On a testé, en dehors, le verrou ne s'enclenche pas. Plus de 4000 de ces e-parkings ont été mis en place ces dernières semaines à Pékin. Au téléphone, un universitaire et expert de l'économie du vélo, loin de la capitale pourtant, mais qui a préféré garder l'anonymat.
Le développement des vélos partagés a d'abord été anarchique, ce qui a causé des problèmes sociaux et de la pollution. Il y a eu un grand gaspillage de vélos, beaucoup ont été détruits. Heureusement, ça s'améliore grâce aux mesures prises par le gouvernement et à la technologie qui empêche de se garer en désordre.
Des mesures de contrôle, le crédit social pour réprimer les mauvais usages, mais aussi des restrictions imposées aux plateformes et aux géants du e-commerce afin d'empêcher une extension désordonnée du capital, comme le disent les médias d'État. Cette fois, on a pris le TGV plus la voiture pour se rendre dans les villages usines à vélo, non loin de Tianjin, la mégalopole portuaire à l'est de Pékin. Un coq chante à côté du balai des camions sur la nationale, les pièces de vélo s'entrechoquent au moment du chargement. Assis sur leurs valises, ces jeunes gens affichent un grand sourire. L'entretien chez un fournisseur de vélos partagés s'est bien passé, explique Jenny, arrivée de la province du Hebei.
Le salaire dans cette usine est meilleur qu'ailleurs, parce qu'ici, il y a beaucoup de travail et on peut faire des heures sup. D'autres usines ne demandent que 10 ou 11 heures de travail par jour, mais ici, nous pouvons travailler 13 heures.
Le boom de la demande post-Covid a relancé le secteur après les faillites en chaîne il y a 3 ans. Allongé sur un carton, Liu Raibo profite de la pause. 3 ans justement que ce jeune manutentionnaire a le nez dans les guidons.
Nous produisons des guidons pour vélos et vélos électriques. Presque toutes les usines de ce district fabriquent des vélos. L'économie locale se porte bien. La plupart des gens qui travaillent ici ont moins de 30 ans. Pour moi, c'est intéressant. Alors bien sûr, il y a des saisons moins dynamiques que d'autres. Il est normal de voir une année chargée et une année moins chargée. Le mois de mai, par exemple, c'est une saison creuse. La haute saison, c'est entre juillet et décembre. On fait des guidons pour tout le monde, vélos électriques, vélos et même vélos partagés. En ce moment, on a plus de commandes pour les vélos sans électricité et les vélos partagés.
La Chine sort du cauchemar des vélos sans amarre. Le libre partage de bicyclettes made in China fait partie des 4 innovations majeures de la Chine moderne, écrivait en 2017 l'agence d'État chinois juste avant la déconfiture.
Les entreprises se sont engagées dans une guerre des prix pour attirer les utilisateurs. Ce n'était pas durable. Et ces vélos empilés partout ont donné une mauvaise réputation à l'industrie. Le contrôle de qualité, la gestion du parc des vélos en libre service est très important. On appelle cela l'effet fenêtre cassée. Plus un objet public est en bon état, plus l'usager en prend soin et inversement.
Retour à Pékin. Dans la rue des Fantômes, connue pour ses restaurants de fruits de mer, Sun Wanto est au début de la chaîne de récupération des vélos mal garés. Ce Baowan, cet agent de sécurité, tenue noire et brassard rouge comme on en croise dans toutes les rues chinoises, tient à distance les vendeurs ambulants, surveille les poubelles et les bicyclettes.
Ma responsabilité, c'est que la rue reste civilisée, mais parfois, les vélos s'accumulent au mauvais endroit. Les gens les remettent n'importe où quand il y en a plus de 10 mal garés. Je prends une photo et je préviens le groupe de travail qui vient les chercher.
Ne pas laisser trop longtemps traîner les vélos en libre accès, la nature a horreur du vide. Malgré le service de collecte mis en place par la voirie, des grappes de deux roues colorées empiètent sur la rue, devant l'hôpital numéro 3 de l'université de Pékin. Madame Wang, 51 ans, y travaille.
Je prends régulièrement le vélo après le travail. Et là, vous voyez tous ces vélos, on ne peut plus marcher sur le trottoir. Certains soirs, il y en a encore plus, ça bloque le trafic. Les employés doivent venir avec leur camion pour les embarquer.
Wenming Sheqing, Yo Chu Tingfu, pédalez de manière civilisée et garez-vous proprement, dit l'annonce lorsque l'on emprunte l'une des marques de ces vélos partagés à Pékin. On ne nous a pas autorisé à suivre les brigades de ramassage de ces vélos en désordre, mais nous avons trouvé où certains de ces camions se rendaient après la collecte. L'endroit n'est pas indiqué sur la carte. Derrière des palissades bleues, près d'une ligne de métro, un champ de vélos couché sur un parking. Nous courons après le petit camion jaune de la voirie qui vient de s'y engouffrer. À peine arrêté, la cargaison est déchargée sans ménagement. Nous sommes pressés, nous répondent les bras en action.
Ces vélos bloquaient la circulation, alors nous les avons amenés ici. Les plateformes viendront les chercher plus tard. On les dépose et on repart. Notre objectif, c'est de ne pas laisser les trottoirs et la chaussée envahis par les vélos. On fait 6 allers-retours par jour environ. À chaque trajet, nous avons une trentaine de vélos à l'arrière du camion.
Le camion est déjà reparti à l'entrée du parking sous une tente épicerie. La calculatrice de la marchande parle, elle aussi. Malgré les apparences, ce n'est pas un cimetière à vélo, mais une sorte de dépôt, confirme l'un des responsables des lieux.
Cet espace est fourni gratuitement aux entreprises de vélos en libre service. Ces vélos étaient mal garés. Il y a ici environ 2 à 3 000 vélos qui attendent d'être récupérés.
Avec les quotas, la capitale chinoise compte officiellement 800 000 bicyclettes sans attache contre 2,5 millions au moment où la bulle des vélos partagés a éclaté. Un chiffre qui, selon certains, serait sous-évalué. Wang Chengquang, Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Trop de vélos en Chine où sont fabriqués de nombreux composants pour l'industrie du cycle, pas assez en Occident qui connaît actuellement une véritable pénurie. Au Canada, par exemple, l'épidémie a eu un effet totalement imprévu sur les ventes, à tel point que très vite, les détaillants ont été confrontés à un manque de vélos. Et un an plus tard, la demande ne fléchit pas, bien au contraire. Les magasins sont assaillis de clients, particulièrement demandeurs de machines d'entrée de gamme. Selon Moneris, qui gère les transactions par carte de crédit, le nombre des achats de vélos a augmenté de 87% en janvier par rapport au même mois de l'an dernier. Reportage à Montréal de Mathieu Bellumeur de Radio-Canada.
Je pense que moi, ça fait bon un mois et demi, je suis pas venu, peut-être deux. Donc, j'ai jamais vu d'autres comme ça.
Marc-André Lebeau est propriétaire de 7 magasins de vélos.
Tout a été vendu. Je pense qu'en haut, c'est pire. Là. Ah, c'est ça. Écoute, c'est spectaculaire ce qu'on vit. Là. Ça, c'est plein. Là.
Il nous a donné rendez-vous à la succursale de bicycles Kélico dans le quartier Rosemont, à Montréal.
Nos vélos qui s'en viennent, quand on les reçoit, il y en a 8 sur 10 de pré-vendus. Là, quand tu vois une facture, là, comme le bleu, il est vendu, il y a une facture dessus. Ça veut dire qu'il est vendu, mais on les laisse plancher.
Pour que ce soit trop vide.
Même dans le sous-sol de son magasin, qui lui sert d'entrepôt, il ne reste à peu près plus de vélos neufs pour la vente.
Je suis pas là en bas, mais il doit prendre beaucoup de temps. Une pénurie comme ça, tu sais, j'en faisais un running gag l'année passée parce que les gens se sont battus sur du papier de toilette dans les Costco. Mais là, on le vit dans les vélos. Moi, je pensais jamais ça. Là, c'est la chaîne d'approvisionnement au complet qui est difficile. Donc, les compagnies comme Shimano ou des compagnies de composantes, on n'a pas idée que comment ils sont importants dans la chaîne. Il y a des compagnies qui nous disent « Vos vélos, vous ne les aurez pas avant juillet parce que la compagnie de freins X ne peut pas nous livrer les 200 000 freins avant juillet. Le vélo est prêt, sa chaîne de montage. Il n'y a pas les freins. L'autre n'a pas les fourches. L'autre n'a pas les pneus. » Donc, c'est tout de cause à effet. Puis les gens, les fabricants sont pris avec ça.
Même son de cloche pour Anthony Néron, dont la famille possède les quatre magasins Cycle Néron dans la région de Montréal.
Comme un exemple, on en a eu 120, je pense, jeudi ou vendredi passé, qui ont duré la fin de semaine. Ça a été parti, comme même le mois de mars, là, on a même triplé les chiffres, là, c'est incroyable. Là, on n'a jamais vu ça autant. Si vous en trouvez un stock, achetez-les tout de suite.
Et la pénurie s'étend à l'ensemble du Canada.
Des fois, ils viennent avec une quick release, disons, là, ouais, ceux-là, ils viennent comme sans quick release, j'imagine, pour un aspect aérodynamique.
Pas simple dans ce contexte pour les consommateurs. D'autant qu'il y aurait plus d'adeptes de vélo depuis le début de la pandémie.
Oui, dans les boutiques qu'on a fait, les boutiques sont vides. Donc, c'est plus difficile et c'est pas comme s'il y avait l'embarras du choix.
J'ai vendu mon vélo à la fin de l'année dernière, fin de l'été dernier. J'ai vendu mon vélo parce que c'était la folie. Tout le monde en cherchait un, donc c'était le bon moment de vendre mon vieux vélo, pensant que je pouvais m'en procurer un rapidement au début du printemps. Et malheureusement, bien que je l'ai réservé il y a 2 mois, C'est sold out partout.
Je vous dis que j'étais relativement chanceuse. C'est le premier magasin que j'ai fait, puis c'est le seul qui restait. Mais j'ai été magasinée ensuite, puis il n'y a aucun inventaire nulle part, là.
Vous étiez cycliste avant? Est-ce
non,
que la pandémie
c'est
vous
la
a...
pandémie. La pandémie m'a fait faire du snowboard tout l'hiver pour la première fois, puis je me cherchais une autre activité pour l'été. Quoi de mieux que le vélo pour commencer? Donc, c'est la pandémie là qui me convertit en cycliste.
Et si vous vous tournez vers les vélos de seconde main, ils partent vite et les prix sont plus élevés.
Ben, il y a beaucoup d'usagers sur Marketplace, Kijiji, mais ils sont quand même chers. Fait que les gens savent qu'il y a une pénurie, fait qu'ils vendent cher leurs usagers.
L'industrie n'est pas capable de répondre à la demande.
David Régnier-Bourque est directeur du développement des affaires chez Cycle de Vinci, la seule entreprise au Canada à fabriquer à l'échelle industrielle des cadres de vélo.
Nous, on fait les cadres de vélo ici à l'interne, mais on s'approvisionne en composantes comme des pneumatiques et des systèmes de changement de vitesse qui viennent d'un peu partout. Et puis, les compagnies ne sont pas capables de doubler leur production là, au niveau de toutes ces composantes-là. Donc, ils sont capables d'augmenter leur efficacité de production de 10 à 20 %, mais d'être là, de doubler leur production, là, c'est malheureusement pas quelque chose qu'on est capable de changer du jour au lendemain.
Et les pièces pour assembler les vélos sont difficiles à obtenir. Le transport est un autre gros problème, dit-il.
Donc, il y a une crise de transport international au niveau du transport maritime avec une immense pénurie de containers. Donc, les coûts de transport ont plus que quintuplé. Là. Donc, c'est difficile. C'était impossible pour nous de pouvoir continuer avec les mêmes taux frais d'opération. Donc, on a dû ajuster nos prix. Mais c'est certain que le transport sur le prix d'un vélo complet, c'est pas la plus grosse portion. Donc, les prix ont pas augmenté énormément. Là. C'est assez minime.
Si vous avez pensé à reporter à l'an prochain votre projet d'achat, vous pourriez bien vous faire prendre de nouveau.
Puis l'enjeu qui se passe en ce moment, c'est que les ateliers bâtissent des vélos qui sont en retard. Puis je crois que 2022 va être encore plus difficile. Parce que l'année passée, on a vécu une surdemande, mais les vélos étaient produits. Les productions en 2021 étaient produits, ils ont pu mettre les gaz à fond, s'adapter. Mais là, le fait qu'il n'y ait plus de vélos...
Les compagnies de vélos s'approvisionnent principalement à la même place. Donc, ce qui fait que quand on a une croissance mondiale comme on vit présentement, bien, c'est dans tous les marchés qu'il y a une expansion.
On va mettre ça en gravel, l'hybride, lui, il va être conçu justement pour les distances, comme je disais, jusqu'à 50 km.
Puis en ce moment, le mot d'ordre, c'est on achète tout ce qu'on peut. On a un certain pouvoir d'achat, on a des très bons fournisseurs. Mais un jour, il va peut-être avoir un mur qui va arriver. Puis nous, on est déjà en train de travailler là-dessus parce que c'est beau dire c'est facile de vendre, mais quand le mur va arriver, il faut les payer quand même, ces stocks-là. Puis à un moment donné, le marché va se régulariser, puis il y a des stocks qui déprécient pas vite dans notre domaine, il y a des stocks qui déprécient quand même. Donc, exemple dans la technologie, tout ce qui est les bases d'entraînement électronique et tout, en ce moment, il y a une surdemande, les entraînements intérieurs, tout ce qui est virtuel, mais c'est comme les iPhones. Si je reste pris avec 200 iPhones génération X, puis que c'est la génération Y qui s'en vient, bien, je veux dire, à un moment donné, il va falloir les liquider. Fait que ça nous travaille quand même dans la tête, puis ça fait qu'il y a quand même un aura d'incertitude qui nous empêche de dire, hey, on peut juste y aller à fond, là, tu sais. Faut quand même rester, je pense, quand même assez, assez terre à terre. Ouais.
Pour les chanceux qui ont pu mettre la main sur un vélo, l'heure est maintenant à la découverte de leur coin de pays, les voyages à l'étranger étant fortement découragés.
Mais là, on a battu notre record au Québec l'année passée. Fait que c'était une super saison. On a commencé plus tôt, puis on a fini plus tard aussi, au mois de novembre, par rapport à ce qu'on faisait habituellement. Ça nous a empêchés de faire nos voyages de vélo à l'extérieur. Fait que ça, c'était un gros impact important. On faisait des voyages, un voyage, des fois deux voyages de vélo à l'extérieur, soit à Cuba, soit en Europe. Par contre, l'année passée, ce qu'on a fait, on s'est mis à circuler un petit peu plus au Québec. On est parti sur des périodes de 2-3 jours. On se réservait des places dans les motels, en Estrie, à Gatineau, à différentes régions.
Regards croisés, les médias francophones publics sur France Inter.
En Suisse aussi, la proximité avec la nature invite les cyclistes à sortir des villes. La pratique du VTT, encouragée par la richesse et la variété des paysages alpestres, rencontre un succès exponentiel. Succès renforcé par l'émergence des vélos à assistance électrique, permettant aux moins sportifs d'affronter les importants dénivelés qu'ils peuvent rencontrer. Sur un marché dopé par la pandémie, en hausse de 27% en 2020, les VTT représentent la moitié des ventes. Mais sur les sentiers de montagne, la cohabitation est parfois difficile entre cyclistes et randonneurs. Y aura-t-il assez de place pour tout le monde ? La solution passe sans doute par l'éducation des pratiquants, comme le montre ce reportage de Joël Cachin de la Radio-Télévision Suisse.
Tout doux, hein ? Tu vas pas trop vite au début. Hop !
Ouais.
Vous avez vu ? Bonne démonstration, donc tu peux y aller. Vas-y.
Chaque samedi, c'est un rituel pour le Vélo Club des Chalands. Une ribambelle d'enfants a rendez-vous en forêt pour apprendre à manœuvrer son VTT. Et aujourd'hui, une dizaine de petits nouveaux s'apprêtent à passer des bosses.
Tranquillement. Ouais, un petit peu moins tranquillement quand même.
En 10 ans, ce groupe présidé par Vincent Métro a doublé ses effectifs.
Voilà, debout!
On n'a jamais vu autant de monde sur les routes à vélo, notamment depuis l'année passée. Je pense que le confinement a fait un grand boom. Puis c'est de la logique actuelle. Hein. On a besoin de choses simples. Et puis je pense que le vélo correspond complètement à cette pratique-là.
Ouais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
J'ai 8 ans, puis je m'appelle Lola.
Et pourquoi est-ce que tu as décidé de commencer le VTT ?
Bah, parce que je faisais souvent des tours avec mes parents et puis j'aimais bien. Du coup, bah, je voulais faire un peu plus de VTT.
Qu'est-ce que tu as dû apprendre ? Qu'est-ce qu'il t'a dit là ?
Que je devais mieux amortir et puis de lâcher un peu plus les freins.
C'est dur de faire ces bosses ?
Non.
Comment tu t'appelles ?
Sacha.
À quel âge, Sacha ?
7 ans.
Et pourquoi t'as choisi le VTT ?
Parce que j'aime bien.
Je te laisse aller sauter alors. Cet amour des deux roues se confirme dans les chiffres. Selon Vélo Suisse, les ventes ne cessent de grimper ces dernières années et en 2020, elles ont même augmenté de 27%. Parmi ces vélos, la moitié sont des VTT. Un succès qui a aussi ses revers.
On fait des petites passerelles, hein ?
Ah ouais, la petite passerelle sur le ruisseau,
c'est dingue. C'est le début. On met d'abord des petits troncs et puis après, tout d'un coup, on va voir apparaître un peu de terre, ça va être consolidé.
Sur les pentes de la commune de Blonay, le garde forestier Maxime Roth est souvent confronté à des pistes de VTT sauvages. Une pratique interdite en Suisse.
Donc ça, c'est une piste qui est assez nouvelle. En fait, on l'a entre guillemets, découverte en faisant l'entretien du chemin.
Ah ouais, donc là, on est sur le sentier. Et puis, il y a une sorte de sentier bis qui quitte le chemin.
Et puis, vous voyez là, par exemple, ces branches là. C'est des branches d'if, ou cet arbre ici, qui ont été coupées pour permettre le passage des vélos. Puis ben, l'IF, en plus, c'est un arbre qui met beaucoup de temps à pousser, un arbre respecté, protégé. Et puis, ben, c'est toujours embêtant quand on vient les mutiler.
Et l'impact sur la faune, comment on le mesure ?
L'impact, il est grand dans le dérangement, en fait. Et puis surtout aux périodes où les gens pratiquent. Comme maintenant, ben, c'est la pleine période de nidification, la pleine période de mise bas pour les animaux qui vont aller essayer de se cacher un peu dans les fourrés. Et puis ben justement, à chaque passage répété de vélo, de promeneur, de chien, ça sera un dérangement supplémentaire et puis ça sera embêtant.
Alors comment organiser l'espace ? Pour Michel Bongard, qui représente ProNatura, la réponse est claire.
Il faut utiliser les infrastructures existantes, pas multiplier en fait des pistes de descente un peu partout. Il s'agit de faire une pesée des intérêts, pas seulement les intérêts du tourisme, des loisirs, mais aussi les intérêts de la flore et de la faune et du paysage qui ont leur propre base légale dont il faut tenir compte.
Mais le tourisme, justement, est en pleine expansion.
Pour l'instant, le ski reste encore une des disciplines phares du tourisme de montagne, mais on sait qu'à terme, le tourisme 4 saisons est ce qu'on doit viser absolument.
Christian Parizeau dirige l'office du tourisme de Grillon, une petite station de moyenne montagne dans les Alpes vaudoises.
Alors nous sommes à Friens, à l'Alpe des Chaux, dans les hauteurs de la station de Grillon. On est entouré d'un magnifique cirque panoramique de montagne qui part depuis les Diablerets, le massif de l'Argentine et toute la chaîne jusqu'au Don du Midi.
Là, on est sur le lieu où vous allez créer un itinéraire de e-bike. Est-ce que vous pouvez montrer où il part, où il arrive? Alors,
le parcours sur lequel je vous ai amené, c'est ce qui va être dans notre projet le plus grand parcours de e-bike des 6 qu'on prépare, qui fera 62 km et qui sera le trait d'union entre nos stations des Alpes vaudoises, donc Villard, Grillon, Diablerets et Baie. On a déjà 11 itinéraires VTT purs et puis là on développe 6 parcours e-bike.
Et pourquoi c'était important de faire des itinéraires spécifiquement e-bike?
Alors notre clientèle VTT a grandement évolué, hein. On a de plus en plus d'e-bikes et maintenant les gens veulent aller beaucoup plus loin, plus longtemps. Donc l'idée c'était de, on a quand même un nombre de réseaux de chemins qui est limité, donc on voulait récupérer nos parcours VTT et puis les appondre avec de temps en temps des petites pirouettes pour passer d'un à l'autre et créer des propositions qui sont adaptées à la clientèle e-bike.
Mais en développant vos itinéraires, en proposant une offre toujours plus complète, vous amenez plus de gens en montagne, ce qui est votre but, mais est-ce qu'il y a la place pour tout le monde?
Tout est dans la cohabitation justement et dans ces choix de parcours. On a des règles, hein. Il y a des largeurs de sentiers, il y a des endroits où on doit peut-être détourner un sentier. Si on canalise, on sait où les gens peuvent aller, on sait qu'on peut faire même des aménagements, on peut faire de la sensibilisation beaucoup plus facilement que si on laisse les gens aller où ils veulent. On travaille beaucoup sur cette cohabitation parce que le tourisme pédestre et le vélo doivent pouvoir exister ensemble.
Et pourtant, malgré une Suisse très balisée, il n'est pas toujours facile de cohabiter. En témoignent plusieurs courriers des lecteurs publiés dans la revue Les Alpes.
Quel randonneur n'a jamais été effrayé sur des sentiers de randonnée étroits et escarpés par un cycliste descendant à vive allure? Les vététistes seraient à juste titre furieux si les randonneurs empruntaient leurs pistes. Alors l'inverse est bien sûr aussi vrai.
Faune, flore, randonneurs et vélo.
Allez, au suivant.
Comment accorder tout le monde? On retourne à Échallens.
C'est bien, c'est bien. Il y a déjà des bonnes choses. Et ça, c'est votre assurance vie. Donc même si je n'emploie pas, j'ai toujours mes doigts sur les deux freins.
Pendant l'entraînement, vous enseignez un peu les aspects techniques pour le vélo, mais est-ce que vous sensibilisez aussi les jeunes à toutes ces problématiques, faire attention aux piétons, aux randonneurs, à la nature?
Alors oui, clairement, c'est aussi un côté pédagogique, hein. Saluer les gens, enfin respecter les différents usagers, en tout cas pas se sentir comme le roi du monde. On vient vite, donc freiner, saluer, éviter de faire peur, notamment quand on vient depuis derrière. On essaye justement de leur expliquer le côté écologique et le côté règle. Et puis surtout de les mettre face à leurs responsabilités de futurs adultes.
Et donc c'est quoi la clé pour que tout le monde cohabite en paix dans ces forêts, dans ces montagnes suisses?
Le respect. Donc essayer de faire en sorte que tout le monde accepte ses règles et puis qu'il y ait un petit bout de territoire pour chacun, quoi. Nos forêts sont magnifiques. Alors c'est peut-être un peu utopique, mais je pense qu'on arrive à cohabiter, il y a de la place pour tout le monde, oui.
Ainsi se termine cette série de reportages des médias francophones publics et je vous propose de retrouver le plus francophone des chanteurs hollandais, Dick Annegarn, qui lui aussi a une passion pour le vélo.
Et de 1, et de 2, et de 1, 2, 3, et... Vélo va, vélo vole. La voix va où vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va. Belle voiture, beau camion, beau véhicule à locomotion, beau wagon, belle. belle station. Beau train à très grande vision. Bel avion, belle fusée. Belle station espacionnée. Belle colcose de spationose. Bel espace de cosmos rose. Vélo va, vélo vole. La voie va où vélo va. Vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va. Belle moto, beau mécano. Spiderman, Superman. Belle bécane à arbre à cam. Turbochrome d'échappement. Vélo va, vélo vole. La voix va où vélo va. Vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va.
C'était Regards croisés, une émission des médias francophones publics, hébergée, comme chaque année, par Interception. Réalisation Juliette Medevielle, mixage d'Ofer Guéride. La semaine prochaine, retour d'Interception. On s'intéressera avec Géraldine Allot au monde de la nuit. Les discothèques sont toujours fermées, leurs gérants, mais aussi les élus des villes où elles sont implantées, réclament leur réouverture. Sachez enfin que Vanessa Descoureaux vient de recevoir le prix Argent du magazine Stratégie dans la catégorie Meilleure initiative éditoriale, Meilleure enquête, tous médias confondus. C'est son reportage diffusé ici le 18 octobre dernier, un an auprès des Alcooliques Anonymes, qui a été récompensé.